Salut à tous et bienvenue encore une fois pour notre podcast hebdomadaire Super Physique. Je suis avec l'incroyable, le magnifique, le roux, Julien Vénesson.
Salut Rudy.
Putain, j'ai du mal à trouver des expressions pour te présenter maintenant.
Ah ouais, faut que tu changes hein, là.
Putain, j'ai déjà tellement tout dit.
Bah,
je sais pas, si tu pouvais devenir musclé par exemple, ce serait sympa.
On va réfléchir à trouver autre chose la prochaine fois.
Alors, petite actu, maintenant qu'il n'y a pas grand chose, juste un petit point pour ceux qui attendent les résultats du concours Super Physique PowerTech développé couché. Donc là, bah, Fabrice va procéder au tirage au sort donc avec ses logiciels. Et donc bah, après, les résultats seront publiés directement sur le site. Donc je pense que c'est l'histoire de la semaine, là. Et puis fin de semaine, je pense que ce sera en ligne. Donc voilà pour l'actu. Donc, Julien, il y avait une petite question où il a été perdu, donc je vais te la lire en entier. Il existe une technique dite de cryolipolyse, qui, en refroidissant une zone adipeuse déterminée, provoque ce que l'on appelle l'apoptose, les adipocytes. Les cellules adipeuses vont se dégrader naturellement sans léser les tissus apparents. D'après l'un des sites proposant cette méthode, pipou ou pas, je ne sais pas, sur un site de musculation, pas ici, quelqu'un dit que c'est vrai et pas besoin d'aller faire des séances, il suffirait d'appliquer par exemple un pain de glace protégé d'un tissu pour ne pas brûler la peau, 2 à 3 fois par semaine pendant 30 minutes environ, et qu'au bout de 2 à 6 mois, les adipocytes vides entrent en apoptose, à faire au régime évidemment. Alors la question est-ce que l'application de froid sur une zone graisseuse peut réellement entraîner l'apoptose des adipocytes vidés?
Ben, moi, à ma connaissance, moi je suis pas au courant, hein, si ça ce truc-là, si ça fonctionne, ou je vois pas trop par quel miracle d'ailleurs, mais... Je suis pas au courant. On n'a pas remarqué que les gens qui habitaient dans des régions froides étaient plus minces que ceux qui habitaient dans des régions chaudes, ce qui plaide pas en faveur de la théorie. Maintenant, cela étant dit, pour ceux qui ont envie de tester, là dans la méthode testée, il y a rien à dépenser, donc pourquoi pas faire l'essai. À mon avis, ça servira à rien, mais bon, on risque rien en tout cas.
Ouais, Julien, ce serait bien que t'essayes toi déjà pour tester.
Ben, j'ai pas d'adipocytes alors.
Bah si, tu prends du gras.
Si je le fais, je sais pas ce qui va partir.
Peut-être l'apoptose des cellules musculaires.
Ouais, peut-être, ouais.
Ce serait pas mal.
Non, c'est pas... Ça serait pas une bonne chose.
Donc, pour l'instant, on croit que ça n'existe pas.
Ouais, pour l'instant, on n'est pas très convaincu. Hein.
On n'est pas convaincu. Dommage, pour une fois qu'on avait une technique pour perdre du gras sans effort, c'était sympa.
Ah ouais, mais c'est pas encore tout de suite.
Alors, petite question d'entraînement. Alors, c'est une question sur le tempo des répétitions. Donc, de jouer sur le tempo des répétitions respectant, par exemple, sur le premier exercice de base lourd, l'accélération compensatoire. Donc, c'est-à-dire de pousser plus vite que l'on peut. Puis, en finissant par la tension continue sur des mouvements d'isolation. Pour résumer, est-il intéressant de rester dans les tempos préétablis? Ou faut-il mieux faire toujours le plus vite pour soulever plus lourd, au risque de toujours contracter le muscle de la même façon, et de ne plus le stimuler assez malgré le poids? Donc, je commence par répondre à la fin de la question, parce qu'il y a une petite erreur de compréhension. Contracter le muscle toujours de la même façon, et qui correspondrait à ne plus le stimuler assez malgré le poids, ça n'existe pas. Non mais c'est vrai, ça n'existe pas. Après suivre un tempo particulier, qu'il y a ceux qui me suivent depuis un moment dans mes articles, aussi bien sur Superphysique que sur Rudy Koya, savent très bien que je suis un peu contre tous ces tempos. Je vois pas du tout l'intérêt de ralentir ces répétitions. Alors après on peut dire que, donc on en a déjà parlé de ça justement avec le Katsu Training il y a quelques podcasts, je crois.
Ouais.
Tu te souviens? Donc il y a pas vraiment de... Après, on peut prendre un tempo, forcément, si on va doucement, on choisit un tempo, par exemple, on fait la descente en 2 et puis on monte en 4.
Moi, je pense que le tempo, ça peut être utile pour les gens qui peuvent pas s'entraîner lourd, tu vois. Mais parce qu'ils peuvent pas s'entraîner lourd, parce qu'ils sont trop âgés ou parce qu'ils ont un problème fonctionnel, dans le sens où le tempo peut t'aider à augmenter le temps sous tension et peut-être que ça peut avoir un petit effet positif.
Oui, bah après, c'est sûr que si on peut pas faire lourd et puis qu'on est blessé, forcément, on a moins de risques, c'est moins traumatisant de s'entraîner lentement. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de repère. Si on se fixe un tempo et qu'on s'y tient tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qu'on n'oublie pas de progresser à chaque séance, de planifier son cycle pour progresser à chaque séance, Alors oui, on va progresser, mais je pense qu'il y a un moment, de toute façon, c'est comme d'habitude, il va falloir faire évoluer ce paramètre et donc accélérer le mouvement pour continuer à progresser. Donc, de toute façon, j'ai toujours été un peu contre tous ces, donc ces tempos, tous ces, c'est comment, ces trucs un peu à l'avant-moelle-neuve, qui consistent à compliquer l'entraînement. L'entraînement, c'est assez simple. De toute façon, ce qu'il faut, c'est progresser. Et donc, tous les moyens sont bons pour progresser à l'entraînement. Donc, ce qui veut dire pousser le plus vite que l'on peut. Tant que ça ressemble à quelque chose. Hein. Et après, de toute façon, dès qu'il y a lourd, même si on essaye de pousser rapidement, avec l'intention d'être rapide, c'est toujours lent. Donc, mais de toute façon, l'intention compte toujours. Alors après, sur la phase négative, évidemment, faut pas... si on fait du développé couché, le but c'est pas de s'écraser la barre sur les pecs comme Julien. Ah, il écoute, tain, il écoute, je crois qu'il écoutait pas. Il écoute pas.
C'était un test.
Voilà, c'était un test. Donc le but c'est pas de s'écraser, donc c'est quand même de faire une négative qui est un peu contrôlée, qui est pas un lâcher de barre. Et donc après, va te pousser le plus vite possible. C'est quand même la meilleure technique, entre guillemets, qui est la technique que vous allez adopter à terme si vous voulez vraiment progresser. Donc après, le tempo peut avoir quelques... Qu'est-ce que je veux dire ? Putain, j'ai oublié le mot. Je perds mes mots ce soir. Quelques avantages, donc pour ceux qui sont, comme vient de dire Julien, ceux qui ont des problèmes fonctionnels, donc des blessures. Et aussi, ça peut être efficace pour les muscles qui sont un peu en retard, pour leur apprendre à se contracter, donc pour mieux se concentrer sur la sensation musculaire. Mais ça ne va pas permettre de progresser sur le coup, mais plutôt sur le long terme, parce qu'on aura appris à contracter ce muscle et qu'après on va pouvoir progresser avec une technique normale. Mais sinon, pas spécialement d'intérêt. Donc Julien, je ne te conseille pas de faire des tempos préétablis.
Ah d'accord, merci Rudy.
Julien, est-ce que t'es là ?
Oui, bah oui.
Julien est un peu absent ce soir, il veut aller vite regarder un film. Donc c'est pour ça, il est pas dedans. Selon vous, quelle est la stratégie à adopter dans l'achat de compléments alimentaires quand on est étudiant avec un petit budget ? Alors la question, ça revient à dire quel supplément prendre en priorité lorsqu'on a un petit budget. Donc si tu pouvais faire une liste, Julien ?
La première chose, c'est que si j'étais étudiant, je mangerais beaucoup d'œufs bio. Parce que c'est pas cher, c'est une source de protéines pas chère, c'est pas du tout un complément, c'est un bon moyen de faire des économies. Dans les compléments alimentaires, c'est vrai quand même que globalement les protéines en poudre ramenées à la teneur en protéines, c'est pas très onéreux non plus par rapport à certains aliments solides comme de la viande ou même du poisson. Donc c'est vrai que pour un budget d'étudiant, les protéines, je trouve que c'est pas une mauvaise idée, mais faut pas en abuser non plus, parce que comme c'est de la poudre, on a tendance à mettre des cuillerées un peu facilement.
Alors, on a vite tendance à surdoser parce que c'est facile.
Ouais, donc du coup, l'économie, elle est vite compensée par le gaspillage. Donc voilà, moi je pense qu'on peut, de toute façon, on peut toujours faire sans complément, donc si on veut faire des économies, on achète carrément rien, mais je dirais que vraiment, la base de la base, ce serait d'avoir un peu de maltodextrine ou de dextrose pour prendre pendant l'entraînement. Je sais pas ce que tu vends sur la boutique de comparable.
Nous vendons de la maltodextrine qui s'appelle Carbonox, qui est un mélange de malto et de dextrose.
Voilà, donc Carbonox pour prendre pendant l'entraînement, et puis des protéines pour les collations ou avant ou après l'entraînement. Voilà, moi je ferai ça.
Justement, ça me fait permettre de faire un petit rappel. Sur le site, j'avais écrit un article sur comment prendre ces suppléments, et donc où je mettais dans l'ordre aussi... qu'est-ce qu'il fallait prendre en priorité. Et ce qu'on retrouve aussi dans le pack auquel vous n'avez pas accès, mais que mes élèves ont accès, les packs élèves, où je mets par ordre d'importance ce qu'il faut prendre, donc ce qui revient à ce que tu viens de dire, Julien, donc le Carbonox et la whey, puis après, si on a encore un peu de tout, un peu de BCA, et puis après, si on a un peu de tout, de la créa, et puis après, supplément santé, oméga 3, vitamine D.
Deux euros par mois, même étudiant C'est pas ça qui ruine le budget. Hein.
Justement, ça me permet de rebondir sur une question, vu que tu viens de parler des œufs bio, comme ça on va la traiter tout de suite. Donc, sur tes conseils, Julien, je cherche à réduire la protéine en poudre lors des collations, pour remettre des aliments solides. Mais remplacer la whey par des œufs, même bio, ne comporte-t-il pas d'autres risques propres aux œufs ? sachant que je mange déjà 4 œufs le matin, si j'en ajoute 2-3 à chaque collation et en post-training, combien d'œufs peut-on manger par jour sans qu'il n'y ait à craindre pour sa santé? Car tous les excès sont mauvais.
Il veut manger 12 œufs par jour, c'est ça?
Ben, le mec, il en mange déjà 4 et donc il veut enlever sa whey. Après, je finis la question. Et donc, il va en rajouter 2-3 à chaque collation et en post-training aussi. Donc, en fait, il va bouffer 10 œufs par jour.
Ouais, minimum, ouais, au moins donc, 10.
Et d'un point de vue nutritionnel, car le jaune est composé de lipides, combien peut-on en consommer tout en respectant le ratio lipides-glucides-protéines? Est-ce que manger 10 œufs par jour, déjà, est dangereux?
Bah non, on n'a pas de preuve que ce soit dangereux. Dans Nutrition de la Force, je rapporte même l'histoire d'un monsieur âgé qui en mangeait, je crois, une vingtaine depuis des années et qui avait aucun problème.
Ouais, faut y aller, quand même. Non, mais sérieusement, 20 œufs par jour.
Ah ouais, bah.
Oh putain.
Faut y aller, mais bon, toujours est-il que. Après, la notion de dire tous les excès sont mauvais, bah certes, mais ça dépend, hein. On peut manger des haricots verts matin, midi et soir, ça sera pas mauvais pour autant, hein. Donc, les œufs. On peut manger beaucoup d'œufs si on a envie de manger beaucoup d'œufs. Moi, je vois pas le problème. En plus que s'ils sont de bonne qualité, voilà. Après, c'est vrai que bah, c'est un apport en protéines et c'est un apport en lipides. Et il faut voir si ça s'inscrit dans le programme alimentaire. Et c'est pas nous qui allons faire le calcul pendant le podcast de savoir combien de lipides est-ce qu'il peut manger et combien est-ce que ça fait avec les œufs en plus. Bah, il faut qu'il fasse le calcul et qu'il voit pour s'arrêter là où il faut, quoi. Mais on a l'exemple d'une certaine personne qui a fait partie de la team, qui s'appelle Yann, pour ne pas le citer, et qui pendant ses régimes mangeait aussi 10 œufs par jour, quoi.
Ouais, mais c'était quand même... Je sais pas si tu l'as déjà fait, mais moi, j'ai déjà mangé... Là, en ce moment, je mange 4 par jour. J'en ai déjà mangé 6 par jour. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça écœure quand même, hein.
Ouais, bah après, moi, je sais pas. C'est la personne nous parle de ça. Donc voilà, c'est vrai que moi, personnellement, je suis plus comme toi, autour de 4... Ça me suffit, mais bon, on peut avoir, pour des raisons, quelles qu'elles soient, peu importe, on peut avoir envie d'en manger plus. Si la personne aime bien ça et qu'elle veut en manger plus, ben, en tout cas, il n'y a pas de contre-indication qui soit connue, ni de moi, ni de personne.
D'accord, donc tu peux manger 10 œufs par jour sans souci. C'est la conclusion, Julien.
Bah ouais, a priori.
Ok, c'était juste pour être sûr.
Ouais.
Alors, petite dernière question d'entraînement. J'ai les clavicules larges et une cage thoracique plate. Le pull-over ne m'aide pas du tout. Plus je charge et plus je courbature au grand dorsaux, malgré une exécution qui est bonne.
Et surtout que le pull-over, ça tient chaud hein, à l'entraînement.
Jeu de mots.
Ah, t'as compris Rudy quand même.
Oh là,
c'est un petit peu long, il y a une petite latence. Mais...
Julien se réveille, attention. Alors, est-ce un problème si mon programme se compose, du coup, d'un développé couché partiel, donc ce sera un développé couché partiel, j'imagine, sans descendre complètement à fond, d'un développé décliné haltère et d'un écarté couché? Le fait d'effectuer deux développés n'est-il pas de trop, surtout en les spécialisant autant sur la morphologie? Julien?
Oui?
Ah, le savant, on l'entend taper.
Non.
Ah, ouais, le clavier tape tout seul. Donc, pour ceux qui voudraient voir ce que c'est déjà des clavicules larges et une cage thoracique plate, vous pouvez voir sur le site, c'est la rubrique anatomie, sur les analyses morphologiques que j'avais fait. Donc, je crois que c'est un peu le cas de Fabrice, justement. On voit bien qu'il avait les clavicules larges et la cage thoracique plate. Donc, le pullover ne l'aide pas non plus. Et donc, le pullover, comme c'est un exercice de base, va solliciter, suivant les morphologies et les personnes, plus ou moins les dorsaux ou les pectoraux, et toujours en plus les triceps. Donc là, c'est pas de bol, ça fait les grands dorsaux. Donc après, est-ce un problème si mon programme se compose d'un développé couché partiel, développé décliné haltère et écarté couché? Je dirais non. Je dirais que faire deux développés, ça me paraît honnête. Par contre, je suis pas sûr que les écartés couchés fassent du bien. Si vraiment la morphologie n'est pas faite pour prendre des pectoraux, je serais plus parti sur un écarté à la poulie vis-à-vis haute. Histoire, et toujours pareil, en réduisant l'amplitude d'étirement, pour ne pas trop étirer les épaules. Et là, justement, on peut revenir sur cette histoire des tempos. Justement, on est en tempo contrôlé sur les écartés pour vraiment bien contracter les pectoraux et ne pas se servir de l'élan et de la vitesse pour faire l'exercice. Donc après, c'est toujours pareil. C'est ce que je disais dans la newsletter que ceux qui sont abonnés sur mon site ont reçu ce matin. C'est qu'il y a forcément des exercices qui nous réussissent et d'autres pas. Et donc, la difficulté est vraiment de trouver les exercices qui nous correspondent qu'on arrive à trouver justement avec le temps, avec l'expérience. C'est sûr que si on débute, on va avoir du mal à trouver ces exercices-là. Mais petit à petit, on va arriver à trouver ces exercices qui marchent pour nous et pouvoir délaisser de plus en plus d'exercices qu'on faisait ou qu'on nous conseillait au début. Donc, toujours adapter les exercices suivant sa morphologie et suivant ce qu'on veut développer. Donc là, on a pris l'exemple. Donc l'exemple était sur les pectoraux, mais ça peut se mettre sur n'importe quel muscle. Et après, toujours adapter. Julien, d'ailleurs, il paraît que t'as pas été entraîné aujourd'hui.
Non, aujourd'hui, j'ai roupillé.
Ah bah bravo.
C'est pour me concentrer sur ce qui va venir ensuite. C'est le calme avant la tempête.
Bah tiens, je voulais faire un petit actu, j'ai pas parlé de ça. J'ai été voir... je peux en parler, donc j'étais dans un GIA Gym, c'est ça que j'ai pensé, mais à la Seyne-sur-Mer. Donc j'ai été voir Fabien S de la team Superphysique Gold ce week-end.
Ah ouais.
Et donc on a été... Lui, il s'entraîne pas dans cette salle-là, mais sa salle était fermée. Et donc on a été au GIA Gym. Et donc ce qui est assez marrant, c'est que le mec d'accueil, Jesse, nous a reconnus. Dès le début, nous a reconnus, donc nous a offert la séance.
Ah bah c'est cool.
Et donc la salle, putain, super quoi. Elle vaut pas, peut-être pas celle de Paris, mais franchement, putain, tu entraînes dans une salle comme ça, t'es c'est un peu le paradis quoi. C'est un peu dans
ça. Ça doit être un peu le même matos, je pense. Elle doit être plus petite, mais.
Ouais, bah elle fait 1000 mètres carrés.
Ah quand même, ouais, c'est pas mal.
Il y a un gros espace cardio. Par contre, pour les cuisses, il y avait que deux presses, donc toi t'en as 6.
Ouais.
Par contre, il y avait plein de bandes couchées, les barres olympiques super. voilà, t'es dans salle là-dedans, j'aurais été heureux. On a fait une bonne séance, donc je mettrai des photos dans la semaine.
Eh ben Rudy, déménage.
Non, je vais pas...
Bah, dans le sud, il fait beau en plus.
Il fait beau, c'est vrai. Mais c'est vrai que la salle est sympa et donc...
Il y a plein de jolies filles dans le sud, Rudy.
Mais pourquoi tu y es pas, Julien, alors?
Moi, je préfère les chats, moi.
Ah oui, bah, ça m'étonne pas.
Ouais.
Donc ouais, donc un petit tour au Gigalim, donc une bonne séance avec Fabien S, donc il avait bien progressé, encore une fois, donc c'était cool. Donc pour ça, pour dire Gigalim, vraiment un bon concept, hein, vivement que ça débarque partout, pour ouais. Qu'on puisse tous exploser. Hein. Donc voilà, bah, c'était le petit mot de la fin, si t'as rien à rajouter, Julien?
Bah non, non.
Donc, Julien n'a pas été très bavard ce soir, veuillez l'excuser, il se sentait pas très bien.
Quelle charlatan celui-là.
Ah, je rappelle encore une fois parce que j'oublie, vos questions sont à poser donc sur le forum, c'est la rubrique entraînement et ensuite c'est podcast, donc tout simplement, donc vous mettez toutes vos questions ici, donc pas ailleurs, sinon je m'y perds, et donc j'ai plus qu'à vous dire bah, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.